Chapitre 3. La surveillante. À St. Peter's, tout le rez-de-chaussée était occupé par les salles de classe. Les dortoirs se trouvaient au premier. À l'étage des dortoirs, la surveillante représentait l'autorité suprême. Elle régnait sans partage sur son territoire, disposait là-haut d'un pouvoir absolu, et les garçons de 11 et 12 ans eux-mêmes vivaient dans la terreur de cet ogre femelle, car elle gouvernait avec une poigne d'acier. La surveillante était une femme blonde et bien en chair, à l'opulente poitrine. Elle ne devait sans doute pas avoir plus de 28 ans, mais peu importait qu'elle eût 28 ou 68 ans, car pour nous, un adulte était un adulte, et tous les adultes étaient des créatures dangereuses dans cette école. Une fois que vous étiez arrivé en haut de l'escalier, à l'étage des dortoirs, la surveillante vous tenait en son pouvoir, et la source de ce pouvoir, c'était le principal. Personnage invisible, mais terrifiant, qui rôdait dans les profondeurs de son cabinet au-dessous. À n'importe quel moment, la surveillante pouvait vous envoyer en pyjama et robe de chambre, vous présenter devant ce géant impitoyable, et chaque fois que cela arrivait, vous étiez immédiatement frappé à coups de canne. La surveillante le savait, et cette perspective la réjouissait. Elle pouvait se déplacer dans le couloir à la vitesse de l'éclair, et au moment où on s'y attendait le moins, sa tête et sa vaste poitrine s'encadraient soudain dans la porte du dortoir. « Qui a jeté cette éponge ?» lançait sa voix redoutée. « C'est vous, Perkins, n'est-ce pas ? Ne mentez pas, Perkins. Ne discutez pas avec moi. Je sais parfaitement que c'est vous. Vous pouvez mettre votre robe de chambre et descendre vous présenter devant le principal immédiatement. » À gestes lents, en proie à une terrible appréhension, le petit Perkins, âgé de 8 ans et demi, passait sa robe de chambre, chaussait ses pantoufles et disparaissait dans le long couloir qui conduisait à l'escalier du fond et aux appartements privés du principal. Et la surveillante, comme nous le savions tous, le suivait et s'immobilisait au sommet de l'escalier, attendant, une drôle d'expression sur le visage, le pan-pan-pan de la canne qui allait bientôt monter de l'étage en dessous. J'avais toujours l'impression, quand j'entendais ce bruit, que le principal tirait un coup de pistolet dans le plafond de son cabinet de travail. Quand j'y repense, maintenant, il apparaît tout à fait évident que la surveillante détestait vraiment les petits garçons. Jamais un sourire pour nous, jamais un mot gentil, et quand, par exemple, un pansement collait à une plaie au genou, vous n'étiez pas autorisé à le décoller vous-même petit à petit pour ne pas souffrir. Elle l'arrachait toujours d'un grand geste en marmonnant « Soyez pas ridicule, vous conduisez comme un bébé ». Au cours de mon premier trimestre, je descendis un jour au bureau de la surveillante pour me faire mettre de la teinture d'iode sur un genou écorché, et je ne savais pas qu'il fallait frapper avant d'entrer. J'ouvris donc la porte et avançai innocemment. Elle était là, au beau milieu de l'infirmerie, étroitement enlacée avec le professeur de latin, M. Victor Corrado. Ils s'écartèrent précipitamment l'un de l'autre et tous deux devinrent cramoisis.
« Comment osez-vous entrer ici sans frapper ?» hurla la surveillante. « J'essaie d'enlever une poussière dans l'œil de M. Corrado et vous entrez comme dans un moulin pour me déranger au beau milieu de cette opération délicate. »«
Excusez-moi, madame la surveillante. »«
Sortez, revenez dans 5 minutes » cria-t-elle.
Et je bondis hors de la pièce comme un boulet de canon.
Après l'extinction des feux, la surveillante rôdait dans le couloir comme une panthère, essayant de surprendre des chuchotements derrière la porte d'un dortoir. Et nous eûmes vite fait d'apprendre que la finesse de son « oui » était si prodigieuse qu'il était plus prudent de rester silencieux. Un soir, une fois la lumière éteinte, un garçon courageux, du nom de Rag, sortit sur la pointe des pieds de notre dortoir et saupoudra de sucre en poudre tout le linoléum du couloir. Lorsque Rag revint et nous annonça qu'il avait réussi, je me mis à frissonner d'excitation. Immobile dans mon lit, j'attendais, dans le noir, que la surveillante commence sa ronde. Rien ne se produisait. « Elle est peut-être dans sa chambre, me dis-je, encore en train d'enlever une poussière de l'œil de M. Victor Corrado. » Brusquement, de l'autre bout du couloir, nous parvint un « crrrr » retentissant. Faisait chaque pas. On aurait dit qu'un géant marchait sur des petits graviers. Nous entendîmes ensuite la voix suraiguë et furieuse de la surveillante, au loin.
« Qui a fait ça ?» glapissait-elle. « Comment avez-vous osé ?» Avançant bruyamment le long du couloir, elle ouvrait toutes les portes à la volée et allumait toutes les lumières. L'intensité de sa fureur était terrifiante.
« Allez !» criait-elle, arpentant le couloir à grands pas qui crissait. « Avouez, je veux le nom du sale garnement qui a versé le sucre. Avouez immédiatement. Avancez, venez ici. Confessez votre faute. »
« N'avoue pas !» chuchotâmes nous à Rag. « On ne te dénoncera pas. »
Rag demeura silencieux. Je ne pouvais pas le lui reprocher. Eût-il avoué, son sort, cela ne faisait aucun doute, eût été terrible et cruel. Le principal fut bientôt alerté à l'étage en dessous. La surveillante, les naseaux fumants de colère, l'avait appelé à son aide, et nous étions maintenant tous entassés dans le long couloir, frigorifiés, en pyjama et pieds nus, pendant qu'on ordonnait aux coupables, ou aux coupables au pluriel, de sortir des rangs. Personne ne bougea.
Je voyais bien que le principal était de plus en plus irrité. Sa soirée avait été interrompue. Des plaques rouges apparaissaient sur tout son visage. Il postillonnait en parlant.
« Très bien, tonna-t-il. Chacun d'entre vous va aller chercher immédiatement la clé de sa boîte à nanan. Remettez les clés à la surveillante, qui les gardera jusqu'à la fin du trimestre, et tous les colis de vos familles seront dorénavant confisqués. Je ne tolérerai pas ce genre de conduite !»
Nous donnâmes nos clés et pendant les 6 dernières semaines du trimestre, la faim nous tenailla les entrailles. Mais tout au long de ces 6 semaines, Harkel continua de nourrir sa grenouille avec des limaces qu'il glissait par le trou percé dans le couvercle de sa boîte à nanan. Chaque jour, à l'aide d'une vieille théière, il versait également de l'eau par le trou pour réconforter la pauvre bestiole et la maintenir dans l'humidité. J'admirais beaucoup Harkel pour sa sollicitude envers sa grenouille. Bien qu'affamé lui-même, il ne voulait pas qu'elle ait faim. Depuis lors, je me suis toujours efforcé d'être bon avec les petits animaux. Chaque dortoir comportait environ 20 lits, couches étroites rangées le long des murs de chaque côté. Au centre du dortoir se trouvaient les cuvettes où on se lavait le visage, les mains et les dents, toujours à l'eau froide, provenant de grands seaux posés à terre. Une fois entré dans le dortoir, il était interdit d'en ressortir, sinon pour se rendre au bureau de la surveillante afin de signaler une maladie ou une blessure quelconque. Sous chaque lit se trouvait un pot de chambre blanc, et avant de nous coucher, nous devions nous agenouiller par terre et vider notre vessie dans le pot. Tout autour du dortoir, juste avant l'extinction des feux, on entendait le bruit liquide des petits garçons faisant pipi dans leur peau. Une fois cette cérémonie accomplie et lorsque vous étiez monté dans votre lit, vous n'étiez plus autorisé à en ressortir avant le lendemain matin. Il y avait, je crois, des toilettes quelque part le long du couloir, mais seule une crise aiguë de diarrhée en permettait l'accès. Une visite aux toilettes vous faisait classer automatiquement dans la catégorie des victimes de la colique et une cuillerée d'un épais liquide blanc vous était immédiatement fournée de force par la surveillante. Vous restiez ensuite constipé pendant une semaine. Lors de ma première nuit à Saint-Peters, lorsque, malade de chagrin, je me pelotonnais dans mon lit et qu'on éteignit les lumières, je ne pus penser à rien d'autre qu'à notre maison chez nous, à ma mère et mes sœurs. Où étaient-elles ? Me demandai-je. Par rapport à l'endroit où j'étais étendu, dans quelle direction se trouvait Landaff ? Je commençai à m'orienter et ce fut très facile parce que j'avais le canal de Bristol pour m'aider. Si je regardais par la fenêtre du dortoir, je voyais le canal lui-même et la grande ville de Cardiff, avec Landaff à proximité, se trouvait presque en face, légèrement au nord. Par conséquent, si je me tournais vers la fenêtre, je serais face à ma maison. Je me retournais dans mon lit pour me mettre face à ma maison et à ma famille. À partir de ce soir-là, durant tout mon séjour à Saint-Peters, je ne me suis jamais endormi en tournant le dos à ma famille. Des lits différents dans des dortoirs différents m'obligèrent plusieurs fois à m'orienter de nouveau, mais j'avais toujours le canal de Bristol pour me guider et j'ai toujours été en mesure de tracer un trait imaginaire depuis mon lit jusqu'à notre maison au Pays de Galles. Je ne me suis pas endormi une seule fois sans être tourné vers ma famille. C'était un grand réconfort pour moi de me comporter ainsi. Durant mon premier trimestre, il y avait dans mon dortoir un garçon du nom de Tweedy, qui une nuit se mit à ronfler peu après s'être endormi.
« Qui est-ce qui parle ?»
cria la surveillante en faisant irruption. Mon lit était tout près de la porte et je me souviens l'avoir regardé depuis mon oreiller et, en la voyant ainsi se découper sur la lumière du couloir, avoir pensé qu'elle était vraiment terrifiante à voir.
Je crois que ce qui m'effrayait le plus chez elle, c'était son énorme poitrine. J'avais les yeux rivés dessus et pour moi, ses seins évoquaient un bélier ou la proue d'un brise-glace ou peut-être encore deux bombes de forte puissance.
« Avouez, clapit-elle, qui parlait ?»
Personne ne dit mot. Puis Tweedy, qui dormait comme une souche, étendu sur le dos, la bouche ouverte, laissa échapper un autre ronflement. La surveillante fixa son regard sur Tweedy.
« Ronfler est une habitude répugnante, dit-elle. Seuls les gens du commun ronflent. Nous allons être obligés de lui donner une leçon. »
Sans allumer, elle avança dans la salle et prit un morceau de savon dans la cuvette la plus proche. L'ampoule nue du couloir illuminait tout le dortoir d'une pâle lueur crémeuse. Aucun d'entre nous n'osa se redresser dans son lit, mais tous les yeux étaient maintenant fixés sur la surveillante, épiant chacun de ses gestes. Elle avait toujours une paire de ciseaux accrochés à la ceinture par un ruban blanc et elle s'en servait maintenant pour tailler de minces copeaux de savon qu'elle faisait tomber au creux de sa main. Elle se dirigea ensuite vers le malheureux Tweedy et elle laissa glisser les écailles de savon dans sa bouche ouverte. Elle en avait une pleine poignée et j'eus l'impression qu'elle ne s'arrêterait jamais. « Seigneur, qu'allait-il se passer ?» me demandai-je. « Tweedy allait-il s'étouffer, s'étrangler ? Est-ce que sa gorge risquait de se bloquer complètement ? Allait-elle le tuer ?» La surveillante recula de deux pas et croisa les bras sur, ou plutôt sous, sa corpulente poitrine. Rien ne se passait. Tweedy continuait à ronfler. Puis, brusquement, il se mit à gargouiller et des bulles blanches apparurent autour de ses lèvres. Les bulles se mirent à grossir et à se multiplier et pour finir, son visage tout entier fut recouvert d'une bouillonnante écume blanche et savonneuse. C'était un spectacle horrible. D'un seul coup, Tweedy se mit à tousser, violemment, à crachouiller, et il se redressa brutalement sur son séant, en se prenant le visage à deux mains.
« Oh, oh » bredouilla-t-il. « Oh, non, non, non. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai sur la figure? Au secours !»
La surveillante lui jeta un gant de toilette.
« Essuyez-moi ça, Tweedy. Et que je ne vous entende plus jamais ronfler. On ne vous a jamais appris qu'il ne fallait pas dormir sur le dos ?»
Là-dessus, elle sortit à grands pas du dortoir et claqua la porte derrière elle.